France Inter.
Les agents de notation font leur travail. Moi, je fais mon travail de ministre de Finances qui consiste à rétablir les comptes publics, à atteindre les 3% de déficit en 2027 avec une stratégie de rétablissement des finances publiques ferme et sereine. Je suis totalement déterminé.
C'était deux jours avant le verdict d'hier soir, celui des agences de notation. Le ministre de l'économie a dit à nos amis de BFM Business qu'il était très serein. Bon, évidemment, difficile de dire autre chose que des éléments de langage, mais était-il si tranquille ? Il est le premier responsable face à la situation des finances publiques. Dans trois semaines, ça fera sept ans que Bruno Le Maire se trouve à Bercy. Alors les agences, que disent-elles ? Elles ne croient pas vraiment à l'objectif de faire revenir le déficit sous les 3% d'ici 2027. Elles soulignent que déficit, dette, la France fait moins bien que nombre d'autres pays classés dans la même catégorie AA. Mais bon, ce matin, note inchangée, nous échappons à une quelconque sanction. Ni Fitch, ni surtout Moody's, celle qu'on redoutait le plus, ne nous dégrade. Ce qui signifie risque de défaut très faible. Les marchés peuvent avoir confiance et prêter à Paris. Pourquoi ? Parce que nous levons bien l'impôt, parce que nous avons des institutions, des banques solides, parce que les obligations françaises se revendent sans problème. Et puis bien sûr, parce que nous bénéficions de la protection de la Banque Centrale Européenne. Les agences pensent donc aux investisseurs, il reste aux Français à penser à eux-mêmes. Jusqu'où faudrait-il redresser la barre des comptes publics ? À quel rythme ? Avec quelles solutions ? Est-ce qu'il faut couper dans les dépenses ? Il faudrait alors s'entendre sur ce qu'on attend de chaque euro public injecté. Est-ce que ça doit être un investissement pour le futur ? Ou alors de la croissance pour l'immédiat ? Il faudrait évaluer également l'efficacité réelle de tous les budgets, aides, crédits et niches. Et puis en parallèle, il faudrait quand même discuter des recettes. Bref, on va suivre avec un grand intérêt le débat programmé lundi et mardi au Parlement.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h et ce matin, toute l'équipe se joint à moi pour vous adresser, auditrices, auditeurs, un immense merci parce que vous n'avez jamais été aussi nombreux, 2 760 000 auditeurs pour le Mag Echo, ça veut dire 640 000 personnes de plus que l'année dernière qui nous font confiance pour discuter tous ensemble de l'économie au sens large. Je pense en particulier à ceux qui disent que l'économie ne les intéresse pas, restez avec nous. L'invité dont n'arrête pas l'écho dirige un géant mondial de l'eau, des déchets et de l'énergie. Alors ce matin, question sur l'accès à l'eau, la qualité de l'eau potable, les PFAS, et puis le prix. Et puis Veolia a aussi lancé une école de la transformation écologique dirigée par l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Avec quels objectifs ? Tout ça, ce sera dans l'interview d'Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia, vers 9h40. À propos de formation, les dispositifs n'échappent pas aux coupes budgétaires. Il y a des changements pour le compte personnel de formation, pour les contrats de professionnalisation aussi. Nous ferons la photo avec le reportage d'Anaël Verzo. Et puis notre passage hebdomadaire dans les coulisses de la vie au bureau, ça sera avec vous Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Madame Vie au boulot, cette semaine, c'est Géraldine qui vous a écrit.
Oui, le gouvernement veut alléger la feuille de paie, ce qui a fait réagir notre auditrice. Elle se demande ce que ça va changer.
Et on se retrouve pour la réponse juste avant 10h, Sandrine. Mais tout de suite, l'actualité économique décryptée par Anne-Sophie Le Chevalier de Libération. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra.
Et Béatrice Mathieu de L'Express. Hello Béatrice.
Bonjour Alexandra.
Alors, on a beaucoup attendu ce jugement des agences de notation, j'en ai dit un mot en début d'émission. Je me tourne vers vous, Béatrice, comment vous avez reçu note inchangée ? Bon ben voilà, pas de sanction, comment vous avez reçu ça ?
On voit bien que le ouf de soulagement que semble pousser ou que doit pousser l'exécutif ce matin, finalement, pour moi, est assez inquiétant, parce qu'il alimente un peu ce sentiment d'anesthésie d'une partie de l'opinion publique et de la classe politique sur l'état réel des finances publiques, qui n'est pas bonne. Alors évidemment, hein, la France ne va pas faire faillite. Et j'entends ici et là, regardez, aux États-Unis, on a un déficit de 7% du PIB. Au Japon, on a une dette de 200%. Finalement, c'est pas grave. Voilà. Dans les deux cas, la situation n'est absolument pas comparable. Et moi, je trouve que c'est important de revenir aux milliards sonnants et trébuchants, et notamment aux milliards de la charge de la dette. Quand on regarde le plan de stabilité qui a été présenté par Bercy, c'est-à-dire le chemin, la trajectoire
pour arriver au fameux 3%, objectif 2027,
on a en charge de la dette, donc ce que doit payer l'État français à ses créanciers chaque année, 76 milliards en 2027.
C'est presque le budget de l'éducation nationale.
Voilà, et le FMI, dans ses prévisions, voit une charge de la dette à 96 milliards en 2028. Ça fait beaucoup de milliards, ça fait beaucoup de plans de relance, de plans d'urgence pour l'éducation, la santé, la transition, etc. Donc c'est peut-être des milliards qui auraient servi à autre chose. Donc il faut revenir aux milliards.
Donc est-ce que vous êtes d'accord, Anne-Sophie ? Est-ce que les Français, les Français doivent aussi penser à eux-mêmes ?
C'est ça. Et si on en revient à l'effet strict des agences de notation et des décisions, on en parle beaucoup parce que finalement ça a plus un effet politique. On l'a dit d'ailleurs dans leurs décisions, même si elles n'ont pas changé leur notation, elles émettent des doutes assez importants sur le fait que le gouvernement parviendra à ramener le déficit à 2,9% du PIB en 2027, ce qui est quand même pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. En revanche, les effets sur les marchés, finalement, ce qui nous intéresse, c'est de regarder à combien on emprunte. Évidemment, le poids du remboursement de la dette est de plus en plus important. Mais ceci dit, les effets des décisions des agences sont vraiment minimes, en France en tout cas, sur les marchés. Et si on a regardé depuis 2012, il y a eu 7 baisses en tout sur le cas français. Et en fait, il n'y a pas eu d'impact majeur sur les marchés. Mmh. Ce qui veut dire que...
Ce sont les taux de la BCE. C'est eux qui ont plus d'importance en fait pour les taux auxquels on emprunte pour notre dette.
Hein. Exactement. Et même ces derniers temps où quand même d'un point de vue des finances publiques, on a eu une avalanche de mauvaises nouvelles, ça a guère bougé. On regarde toujours un indice qui est l'écart de taux, enfin ce qu'on appelle le spread avec l'Allemagne.
Le spread.
Donc c'est l'écart de taux d'emprunt de rendement des obligations d'État à 10 ans et en fait il est assez stable autour de 50 points. Mais évidemment peut-être que cette inquiétude forte date des années 2010 et de la crise des dettes souveraines, où là, le spread avec l'Allemagne était autour de 200 points de base au moment du record. Et donc, on a gardé ça, sauf que depuis, on a quand même fait beaucoup de choses. Et il y a eu notamment la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi avec le quoi qu'il en coûte, le whatever it takes, qui a quand même rassuré grandement sur la solvabilité et sur le fait que même s'il y avait une catastrophe, la France ne serait pas laissée toute seule à son propre sort.
On va avoir la décision de Standard & Poor's le 31 mai, Béatrice. Ça sera à 9 jours des européennes.
Oui, oui. Ça risque d'être... la chanson sera peut-être...
On va chanter la même en même temps, non ?
Voilà, mais ça sera peut-être un peu... Le refrain sera peut-être différent, hein, parce que Standard & Poor's, chaque agence a son code et sa classification. Là, on était déjà avec Standard & Poor's sur une perspective négative. Donc, il est possible quand même que Standard & Poor's dégrade.
Techniquement, c'est possible. Après, on se demande toujours si les agences font pas aussi un peu de... Elles ont été tellement critiquées que est-ce qu'elles regardent pas l'état de la politique et le fait qu'elles pourraient un peu mettre le feu
Bien sûr, elles regardent. Il y a une partie dans la note de la France, il y a une partie subjective en fait qui est liée aussi au contexte politique, à la capacité du pays à faire des réformes compte tenu du climat social. Ça fait partie aussi de l'équation.
L'impact économique, Anne-Sophie, vous avez dit qu'il n'était pas si fort. L'impact politique, l'image, la réputation du gouvernement est plus évidemment impactée par toutes les décisions.
Oui, puis vous l'avez dit, ça sera à 9 jours des européennes, le 31 mai, à Bercy, au gouvernement. C'est quand même cette date-là et cette échéance-là qu'on redoute le plus, notamment pour ce que vous venez de dire, Béatrice. Donc, et à 9 jours, ça devient un sujet politique. Et ça enflamme la campagne. Et puis on peut aussi rajouter que dans leur décision hier soir, il y a une des agences qui dit aussi si elle ne croit pas à l'objectif de 2,9 en 2027, c'est aussi parce que les économies, ou en tout cas les moyens de rétablir le déficit, ne sont pas assez documentés et détaillés.
Alors justement, transition parfaite pour notre discussion sur les solutions. Est-ce que les entreprises doivent être plus mises à contribution pour redresser les finances publiques ? La question est revenue cette semaine avec le débat sur les les rachats d'actions. Le gouvernement veut taxer cette pratique financière dès cette année, peut-être. Dérive du capitalisme financier ou instrument de bonne gestion. Les rachats d'actions, c'est notre débat.
Rachat d'actions, c'est quoi? C'est quand vous avez une entreprise qui utilise ses bénéfices pour racheter ses actions.
Thomas Cazenave, ministre des Comptes Publics.
Ça peut être une pratique courante, mais c'est aussi des fois une manière d'enlever un peu du bénéfice qui aurait pu être redistribué aux salariés. Et donc, moi j'ai annoncé que nous étions prêts à travailler avec toutes les forces politiques qui le demandaient pour que dans le débat parlementaire, par amendement, on puisse avancer sur ce sujet.
Il faut qu'ils le fassent, oui. C'est ce que font les Américains qui sont en train de taxer les dividendes, les rachats d'actions et augmenter la fiscalité des entreprises.
Sophie Binet.
Effectivement, c'est là où se situent les richesses qui sont issues de notre travail.
Secrétaire générale de la CGT.
On atteint des records en matière de dividendes versés aux entreprises. C'est 100 milliards qui ont été versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40, c'est un record. Avec en plus 30 milliards de rachats d'actions, ça c'est juste 30 milliards qui partent en fumée. Ah oui.
Quand j'entends le président Macron et le gouvernement critiquer de façon aussi violente et rachat d'actions, je trouve que c'est pas justifié.
Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde.
Il y a plein d'entreprises qui font pas de rachat d'actions et qui augmentent pas bien leurs salariés.
Oui.
Et des entreprises qui font des rachats d'actions et qui augmentent bien leurs salariés. Donc là, on mélange tout, en fait. Il y a des bons rachats d'actions, puis il y a des mauvais. Ça, le gouvernement peut le dire.
Ça vous a pas échappé que les marchés financiers ont continué à beaucoup augmenter.
Nathalie Janson.
Cette option de pouvoir racheter des actions est plus fréquemment utilisée.
Professeur d'économie à Neoma Business School.
Je pense qu'il faut remettre dans le contexte et surtout, il faut s'interdire de vouloir décider à la place d'une entreprise. C'est quand même elle qui est au mieux au fait de savoir comment elle va allouer les revenus qui lui incombent.
On est quand même face à des groupes, notamment Stellantis, Total, qui sont plutôt dans une trajectoire de réduction de leur effectif.
Olivier Petitjean, cofondateur et coordinateur de l'Observatoire des multinationales.
Il faut signaler aussi que beaucoup de ces entreprises, comme Total, notamment entreprise pétrolière, Stellantis, constructeur automobile, et ArcelorMittal, sidérurgiste, c'est des entreprises très polluantes. Et tout cet argent que Total ou ArcelorMittal consacrent au rachat d'actions n'est autant d'argent qui n'est pas utilisé pour investir.
Béatrice Mathieu, je me tourne vers vous. Alors, les rachats d'actions, c'est une gymnastique financière à laquelle nous ne sommes pas tous habitués. Moi, la première. Donc, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit.
Alors, déjà, les montants. Alors, c'est pas nouveau, les rachats d'actions, notamment aux États-Unis. Ça fait plus d'une décennie que le sujet est vraiment sur la table parce que les montants.
Mais ça concerne qui?
Alors, concrètement, donc, les rachats d'actions, l'entreprise, en fait, réduit, en fait, le nombre d'actions en circulation. Les rachetant, elle les détruit. Donc, chaque actionnaire, en fait, à la fin, a une part un peu plus grande du capital. Ce qui fait que le bénéfice par action est plus grand et ce qui entretient la hausse des cours. Alors, les montants. L'année dernière, il y a eu 1100 milliards de dollars de rachat d'actions
sur toute la planète.
C'est un petit peu moins qu'en 2022. Alors, un petit peu moins, surtout aux États-Unis, hein, parce que c'était très alimenté par ce qu'on appelle les big tech, hein, les méta, Apple et Facebook et Microsoft et autres. Apple a réduit ses rachats d'actions d'un septième, Microsoft et Meta d'un tiers. Alors, il faut quand même redonner là encore les chiffres, c'est assez hallucinant. Hein. Apple a dépensé rien que sur l'année dernière 77,6 milliards de dollars pour racheter ses propres actions.
Et les détruire. Et les annuler, en fait.
Et les détruire et les annuler. Alors, en France, on n'est pas sur ces chiffres-là, mais bon, c'est quand même très important. 33 milliards d'euros. Alors, la moitié de ces rachats d'actions ont été faits par deux entreprises. BNP qui a racheté 5 milliards pour l'équivalent de 5 milliards d'actions et Total Energy pour 9 milliards.
Anne-Sophie Le Chevalier, votre regard sur les rachats d'actions?
Eh ben, une dérive du capitalisme financier. Donc là, dans les gagnants, évidemment, ce sont les actionnaires, on l'a expliqué. Les perdants, ce sont les salariés qui ne voient pas forcément leur rémunération augmenter. Et l'entreprise qui n'utilise pas ses bénéfices pour investir. Et puis, on peut parler aussi de l'emploi, puisque c'est autant de postes qui ne sont pas créés et qui auraient pu être utilisés pour en créer. Cette dérive-là, finalement, ça revient à de la fabrication artificielle de valeur. Il faut quand même rappeler que c'était une pratique qui a longtemps été très, très encadrée, voire interdite, selon un principe qui dit que la société ne peut pas être à la fois débitrice et créancière d'elle-même.
Ça a été considéré
à l'époque comme un peu de la manipulation de cours. Ça a été encadré par une loi de 1966 qui les interdisait à quelques exceptions près, puis libéralisé en juillet 98. Et ce phénomène est devenu de plus en plus fort, notamment avec Wall Street et l'utilisation par les entreprises américaines. Alors, ça peut être acceptable et entendable si une entreprise, par exemple, veut se protéger d'une OPA.
C'est souvent l'argument le plus souvent employé.
Voilà.
Ouais.
Mais
dites-nous pourquoi, parce que ça fait monter le cours.
C'est ça, et puis
ça rend l'achat plus cher, hein, l'OPA.
Mais politiquement, c'est un sujet qui fait complètement consensus contre lui. Donc, il y a eu une taxe sur les rachats d'actions qui a été instaurée aux États-Unis par Biden dans le cadre de l'IRA. C'est une taxe de 1% qui veut passer à 4%. Et même Emmanuel Macron, qui nous a pas franchement habitués à un discours critique envers les entreprises, l'a dit, on était en mars 2023, souvenez-vous, il était au journal télévisé du midi sur TF1 et France 2, à la veille d'une énième journée de contestation contre la réforme des retraites. Et il a dit, il y a quand même un peu de cynisme à l'œuvre quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions.
Donc il a remis le sujet, ou il a mis le sujet sur la table, et on en arrive à aujourd'hui, Béatrice Mathieu,
le sujet est vraiment sur la table, puisque le gouvernement, qui avait déjà essayé de le mettre en place dans le précédent projet de loi de finances, il y avait eu des amendements et finalement ça n'avait pas été retenu. Là, dans le projet de loi de finances de 2025, il est possible qu'il y ait une taxation sur ces rachats d'actions, avec un possible effet rétroactif sur 2024. Là, on est vraiment dans les spéculations, parce qu'il n'est pas certain.
Ouais, c'est ce qui se dit en coulisses, Anne-Sophie.
Il y a eu un amendement, mais tout le monde l'a oublié. En fait, ce qui s'est passé au dernier projet de loi de finances, c'est qu'ils ont utilisé le mécanisme de partage de la valeur en disant, si vous distribuez des actions, si vous rachetez vos actions, alors vous êtes obligé d'en distribuer à vos
salariés. C'est un amendement MoDem, c'est ça ?
Non, ça c'était un amendement de la majorité déposé en dernière minute avant le 49-3. En revanche, le MoDem en commission des finances avait fait voter à l'initiative de Jean-Paul Mattei, du député, une taxe sur les rachats d'actions de 1%.
Voilà, c'est
et
ça.
Cette taxe a disparu après le 49-3.
Donc le gouvernement n'a pas été dans le PLF.
Mais il y avait quand même ce mécanisme d'incitation.
Oui.
Et donc là, ça revient. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une task force qui a été créé, parce que ça devient un problème politique dans la majorité, pour réfléchir aux rentes et comment taxer les rentes. Et donc, mais faut quand même le dire, il y a une forte opposition des entreprises qui pratiquent les rachats d'actions.
Les grandes entreprises, pas toutes d'ailleurs, mais certaines pratiquent le rachat, d'autres non.
Je peux vous dire d'ailleurs que l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, qui est le lobby des plus grandes entreprises, a été reçue par cette task force de parlementaires de la majorité cette semaine. Et il faut quand même rappeler aussi qu'il avait été dit dans Le Monde, écrit dans Le Monde cet été, que Bernard Arnault avait très mal pris les propos du président de la République que je vous ai lu tout à l'heure, et qu'il avait mis en balance sa participation comme sponsor aux Jeux Olympiques, et que ça avait été interprété par le gouvernement comme un avertissement clair.
Donc, sujet brûlant, Béatrice Mathieu.
Oui, alors, il est quand même possible, parce que là, aujourd'hui, on est dans une quête effrénée de recettes, que cette taxe réapparaisse, en fait, dans le projet de loi de finances pour 2025. À combien il sera ? Est-ce que on sera à 1 ou un peu plus ? Là, il va y avoir des discussions qui vont être assez serrées. Est-ce que ça sera rétroactif
ou pas ?
Ça,
c'est une grosse question.
Là, c'est une très grosse question, d'autant plus que la rétroactivité est assez contraire au principe de droit fiscal. En même temps, cette question de réactivité, on l'avait mis en place pour la fameuse taxation des énergéticiens, le crime.
La crime.
Voilà. Donc, il est possible que ça apparaisse. Je pense que ça cache quand même un débat plus profond, qui est celui de la taxation globale des entreprises. On a aujourd'hui un besoin de rétablissement, on le disait au début. L'effort doit être partagé par tous. Et on sait très bien que le chemin qui a été présenté encore une fois à Bruxelles n'est pas crédible si on n'augmente pas à un moment les impôts.
Les recettes.
Les recettes et donc les impôts. Et donc les impôts aussi des entreprises. Alors, il y a cette taxation qui rapporte pas grand-chose parce que si on taxe finalement, si on avait taxé les 33 milliards au taux de 1%, bon, on aurait 300 millions. C'est toujours bien, mais bon, c'est pas ça. On n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, il faut quand même aujourd'hui revenir sur la question de la taxation des entreprises. Quelle taxation des entreprises ? On reviendra évidemment sur cette contribution sur les rentes des énergéticiens. Mais là encore,
c'est pas grand-chose.
Il faut revenir sur les taux de l'IS ou d'autres choses.
Sur les taux de l'impôt sur la société, le crédit impôt recherche.
Les baisses de charges.
Anne-Sophie qui trépigne.
Juste, il y a un sujet quand même, c'est sur la rétroactivité. C'est important parce qu'on va beaucoup en parler cette année. L'idée là du gouvernement, c'est de le mettre dans le projet de loi de finances de fin de gestion. Donc ça apporterait des revenus dès cette année et pas dans le PLF de 25 qui n'apporterait des revenus que l'année prochaine. Donc ça, c'est assez important à dire parce que c'est
ça rapporterait des sous tout de suite. Voilà, 300
mais effectivement pas à l'échelle. Voilà, peut-être quelques centaines de millions d'euros, voilà. Plus. En revanche, dans les aides aux entreprises, effectivement, il y a de quoi faire. Et d'ailleurs, ils ont lancé une revue de dépenses publiques qu'on attend toujours. Hein. Ça avait été lancé en novembre.
C'est l'Arlésienne du débat fiscal.
On peut peut-être rappeler quand même les ordres de grandeur, hein, parce que les aides aux entreprises, selon les estimations, c'est entre 120 milliards selon le gouvernement, 160 selon le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Donc effectivement, il y a des gros montants à dégager. Le crédit impôt recherche, on en a parlé.
Première niche fiscale de France.
Autour de 8 milliards. L'apprentissage, c'est 20 milliards, avec beaucoup d'argent dépensé dans le supérieur pour des étudiants qui, de toute façon, a priori, trouveraient un emploi grâce à leur qualification. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de mettre...
On va en parler. Ils viennent de supprimer la prime de 6 000 euros pour les contrats de professionnalisation. C'est pas les contrats d'apprentissage.
Après, il y a un problème de fond, c'est que est-ce que l'Élysée et l'exécutif sont prêts à embrayer sur les mesures contre les entreprises?
À un moment, en fait, ils vont être obligés de le faire parce qu'il est probable que en juin prochain, l'Union européenne décide de mettre la France sous une procédure de déficit excessif avec une obligation de réduire son déficit de
0,5
point.
Au-delà de ça,
on n'en parle pas du tout, mais la nouvelle définition en fait des critères de convergence en Europe fait qu'on risque de rentrer dans ce chemin-là.
Et au-delà de ça, la question de la juste répartition de l'effort pour des entreprises qui ont été quand même beaucoup aidées au moment de la pandémie, au moment de l'inflation. Et aujourd'hui, le gouvernement fait des économies sur le dos des chômeurs, sur le dos des pauvres avec la réforme du RSA. Il est peut-être temps que la question de la justice soit plus présente.
Bon, jusqu'où ira ce gouvernement pro-business pour redresser les finances publiques? On en reparlera. Merci Béatrice Mathieu et Anne-Sophie Le Chevalier. Vous avez fait le débat de ce 27 avril. Dans moins de 10 minutes, la directrice générale de Veolia sera notre invitée, Estelle Brachlianoff. Des questions, par exemple, sur l'eau potable, sa disponibilité, son prix, la qualité. Il y a pas mal d'interrogations au sujet des polluants éternels, les PFAS. Et puis, très intéressant, Veolia vient de lancer une école de formation aux métiers écologiques. Nous en parlerons. Auparavant, je vous propose donc ce zoom sur les changements qui touchent les entreprises et les jeunes en formation. Et oui, il y a des économies par ici aussi. Alors, pour le compte personnel de formation, par exemple, l'État veut instaurer un reste à charge que le salarié devrait payer pour utiliser son CPF. Et puis, on en parlait à l'instant, les contrats pro, la prime de 6 000 euros instaurée depuis 2020 afin d'inciter les employeurs à embaucher en contrat de professionnalisation, serait supprimée dans quelques jours, mercredi prochain. Pour les finances publiques, cette aide, ça représente quand même chaque année 300 millions d'euros. Et en face, il y a 116 000 personnes, c'est le chiffre de l'année dernière, qui arrivent ainsi dans le monde du travail. Alors certes, on n'est pas sur un dispositif d'alternance aussi massif que l'apprentissage, mais sur le terrain, on s'inquiète quand même des conséquences. Et vous allez l'entendre du côté de Dunkerque, où nous emmène ce matin notre reporter Anaël Verzo. Nous sommes à Couderque Village, et nous voici dans l'usine Steen by John Cockerill. 64 salariés spécialisés travaillent là, dans la soudure de tuyauterie industrielle et nucléaire.
Alors voilà, on vient d'arriver dans un grand hangar gris avec des sortes de rideaux rouges en plastique qui séparent le hangar par zone de travail. Et là, donc, il y a une table de soudure avec des personnes qui sont en train de travailler.
Je peux vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, c'est un tuyau En fait, il y a plusieurs positions sur les tuyaux en fait, pour la soudure.
Donc c'est comme un morceau de tuyau en acier.
Ouais, c'est en acier. En fait, on coupe, on fait des chanfreins du coup pour souder à l'intérieur et pour s'entraîner. Du coup, c'est bien quoi.
D'accord, parce que là actuellement, toi, tu t'entraînes.
Ouais, voilà, je m'entraîne, ouais, c'est ça.
D'accord. Gaëtan ?
Moi j'ai 19 ans.
Tu travailles déjà dans l'entreprise en contrat de professionnalisation, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça se passe bien ?
Ouais, ça me plaît. Ouais. J'ai commencé par un CAP en chaudronnerie du coup. Et au bout d'un moment, j'ai changé d'avis, je voulais faire un bac pro. Et du coup, en fait, j'ai arrêté le bac pro parce que j'aimais pas l'école.
Est-ce que tu avais d'autres options que le contrat de professionnalisation ?
Non, pas vraiment. Après, j'avais le contrat d'apprentissage, mais vu que j'aime pas l'école, bah, j'ai dit non. Le contrat d'apprentissage, c'était 2 semaines en cours et 2 semaines du coup en entreprise. Ça m'a pas intéressé.
Mathieu, vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 27 ans. Moi, j'ai fait un bac général. Je suis rentré dans le monde du travail tout de suite, ou en restauration, donc rien à voir. Puis j'ai voulu entamer une reconversion professionnelle et pour poursuivre sur un contrat pro.
Christine Roineau, donc moi je suis responsable des ressources humaines de la société STIN, by Jeanne Coquerel. En tout, on aura 11 jeunes en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise sur l'année 2024.
Vous avez eu, l'entreprise, une prime de la part de l'État pour prendre en formation ces personnes en contrat de professionnalisation ?
Oui, alors ces aides sont versées à la fin des contrats, mais la problématique, c'est que l'État va nous les supprimer à partir du 1er mai.
Et vous avez déjà touché la prime ou pas encore ?
Non, pas du tout.
Vous n'êtes pas sûr de la toucher ?
Exactement, puisque les contrats, ceux qui vont démarrer au 13 mai, ben, normalement on l'aura plus. Ceux du mois de juin non plus, ceux du mois de septembre non plus. Ce qui fait qu'on a étalé nos budgets pour pouvoir rentrer cette prime dans le budget global de l'entreprise. Et là, il y aura une perte phénoménale pour l'entreprise. Donc peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à la négociation de tous les contrats prévus. Malheureusement pour ces jeunes.
En principe, vous deviez percevoir quel montant de prime pour chaque contrat signé ?
6 000 euros pour chaque contrat signé.
Donc 6 000 multiplié par 11, ça fait un paquet d'argent.
6 000.
Un manque à gagner.
Pour l'entreprise et qui va faire réfléchir les entreprises à est-ce qu'on va encore se tourner vers les contrats de professionnalisation ?
Avec sa suppression au 1er mai, combien d'entreprises pourraient renoncer à embaucher un jeune sur ce type de contrat ? C'est la question qu'on se pose au groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, le GEC. Je vais rencontrer son directeur métallurgie pour la région Hauts-de-France, Jimmy Bello. C'est lui qui a fait recruter Gaëtan et Mathieu.
Donc le GEC est un groupement d'employeurs pour l'insertion par la qualification, donc qui permet de répondre à des besoins d'entreprises adhérentes sur des métiers en tension. Et nous, on a la chance d'aller pouvoir chercher justement un public éloigné de l'emploi qu'on va recruter sur le savoir-être. Et derrière, on va mettre tout un parcours de formation en place pour justement répondre aux besoins des entreprises. Donc on va faire matcher les publics éloignés de l'emploi avec les besoins des entreprises. Il y a un gros challenge ici sur le Dunkerquois, alors on entend beaucoup parler, hein, entre les gigafactories qui s'installent et sur la construction des 2 EPR. Nous, aujourd'hui, on est là pour anticiper des besoins de main-d'œuvre. Et le contrat pro est une formule qu'on va utiliser pour pouvoir justement venir combler des besoins. Le contrat pro a la particularité de permettre de remettre à l'emploi les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise qui va faire le choix demain à entreprendre un apprentissage qui va coûter moins cher et qui va être sorti du système scolaire sans de problématiques sociales, etc., entre deux, et une personne éloignée avec des problématiques sociales qui serait plus à même à faire un contrat pro, et ben naturellement, elle va laisser le contrat pro de côté. Donc, pas ricocher les publics les plus éloignés. On ne va pas arrêter l'alternance due à cette suppression d'aide. N'empêche que ça peut, pour des TPE-PME, mettre en péril certaines embauches ou ça peut les réduire. Ça va donner moins de chances aux personnes éloignées d'avoir des opportunités d'intégrer des industries. Dans l'industrie, on a quand même une particularité, on peut retrouver ça dans d'autres branches, c'est qu'on a des métiers aussi dont la formation ne va pas être disponible en apprentissage. Si on prend l'exemple de Mathieu Gaëtan, on est là pour les spécialiser au métier de soudeur, mais en apprentissage, il n'existe pas de diplôme en soudage, il n'y a pas de bac soudage ou de BTS soudage. On va retrouver le bac pro chaudronnerie ou le BTS chaudronnerie, qui sont des cursus qui tiennent la route. Mais on ne va pas les spécialiser en soudage. Et c'est vrai que là, le contrat pro permet vraiment de construire une formation sur mesure par rapport aux besoins réels de l'entreprise.
Autre dispositif concerné par les économies de budget, le compte personnel de formation. À partir du 1er mai, ceux qui utiliseront leur CPF pour effectuer une formation devront payer un reste à charge, 100 euros. à la CFDT, cette nouvelle mesure ne passe pas.
Le ticket modérateur décidé par le gouvernement est un contresens par rapport à ses mêmes choix à lui.
Yvan Ricordeau est le secrétaire national en charge de la formation continue.
C'est le gouvernement qui a construit le CPF en disant c'est de la liberté totale pour les salariés et c'est de la gratuité dès le début de la formation à 0 €. Donc là, il y a une remise en cause propre de la politique du gouvernement. C'est assez incompréhensible. En fait, c'est à nouveau une recherche purement budgétaire. Un ticket d'entrée de 100 € va s'avérer très injuste pour une bonne partie des salariés, ceux qui ont le moins de qualifications, ceux qui ont un revenu les moins importants, qui commencent à bénéficier du CPF, eux, ils feront jamais le choix. Quand on a du mal à boucler les fins de mois, on ne fait pas le choix de dépenser 100 € pour se former.
Qu'il s'agisse du contrat de professionnalisation ou du CPF, il y a des critiques sur les conséquences pour l'offre de formation et les bénéficiaires.
Merci.
Mais le problème va au-delà, explique-t-on à l'Institut Montaigne. Dans ce think tank, l'économiste en charge du dossier Bertrand Martineau estime qu'en réalité, plutôt que de mettre des coups de rabot, c'est tout le système de financement des formations qu'il faudrait réaménager.
Le système de la formation professionnelle aujourd'hui en France, si je mets à la fois la formation professionnelle initiale par l'apprentissage et la formation continue, il est totalement insoutenable financièrement. Et donc, ce à quoi on assiste depuis plusieurs années, c'est des coups de rabot. C'est-à-dire, on met des coups de rabot sur tel ou tel dispositif, on diminue les prises en charge de l'apprentissage, on diminue le financement des plans de développement des compétences pour les petites entreprises. On est dans une logique de rabot, c'est-à-dire qu'on ne pose pas les bonnes questions, on tape sur tel ou tel dispositif, mais sans aucune vision d'ensemble et sans se poser la question finalement de qui doit payer. Dans quel cas c'est le salarié qui doit payer, dans quel cas c'est la collectivité, dans quel cas c'est l'employeur, etc. Je prends l'exemple du compte personnel formation. Est-ce que la question c'est le ticket modérateur ou est-ce qu'il faut continuer à l'ouvrir à tout et n'importe quelle formation, enfin dès lors qu'elle est certifiante. On a ouvert sans aucune limite le compte personnel formation au permis de conduire. On l'a étendu il y a quelque temps au permis moto. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou est-ce qu'au contraire, il faudrait le restreindre à des formations un peu prioritaires et des formations qui éventuellement seraient cofinancées par l'employeur? C'est ça les questions qu'il faut se poser plutôt que de laisser le dispositif inchangé en mode un peu open bar et puis introduire un ticket modérateur parce que de toute évidence, le système en mode open bar est insoutenable financièrement.
Les dispositifs de formation qui n'échappent pas aux coupes budgétaires, c'était le reportage d'Anaël Verso.
France Inter. On n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité du Mag Écho ce samedi est la directrice générale de Veolia. Bonjour et bienvenue Estelle Brachlianoff.
Bonjour.
Géant de l'eau Veolia, de l'eau, des déchets et de l'énergie. Vous êtes présente dans 44 pays. Vos clients, ce sont à la fois des villes et des entreprises. Chiffre d'affaires 2023, 45 milliards d'euros. Alors, Estelle Brachlianoff, Veolia vient de lancer une école de la transformation écologique. Ça s'appelle Terra Academia. Le premier campus a été ouvert à Arras. Le président s'appelle Jean-Michel Blanquer. C'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Racontez-nous, quelle formation, quel objectif, qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette école?
Alors, vous avez raison, donc Terra Academia, c'est la première école dédiée à la transformation écologique en action sur les territoires en France. Et c'est bien plus qu'une école finalement, c'est une sorte de coalition basée sur les territoires. C'est pour ça qu'il y a un premier à Arras, mais il y en aura d'autres dans chaque région de France très bientôt, pour arriver à mettre en mouvement finalement la transformation écologique en vrai. Et donc c'est parti d'une conviction, c'est qu'il n'y aura pas de transformation écologique s'il n'y a pas des gens pour la faire concrètement, des gens pour poser des panneaux photovoltaïques, des électriciens pour transformer, ou des spécialistes de l'eau pour arriver à économiser l'eau sur chacun des territoires. Donc finalement, pour répondre à votre question, les formations de tout type, du CAP, du bac pro, maîtrise, licence, et même de la formation continue pour des chefs d'entreprise, pour des dispositifs de collectivité locale. C'est pour tout le monde, y compris même avec des parcours découvertes pour les jeunes qui nous écouteraient, qui ne savent pas trop quoi faire. Deux jours pour découvrir tous les métiers de la transformation écologique et peut-être à la fin des deux jours se dire « Ah, pourquoi pas moi ?»
Et c'est
payant, évidemment, ces formations. Ça va juste, enfin, quelle somme est-ce que ça va coûter cher? Est-ce que
bon, il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes, par exemple pour les entreprises, dans celles que je viens d'indiquer. Ça n'est pas une école de Veolia pour Veolia. Hein. C'est une coalition d'acteurs avec d'ailleurs des acteurs de l'éducation nationale, des collectivités locales, des associations, par exemple, d'insertion. Et donc, en fonction des formations que je viens de citer, il y a toutes sortes de dispositifs divers.
Chez Veolia, vous mettez quand même sur la table pour ce projet, parce que vous voulez donc, là, ça a été Arras, ça va être Paris en juin, le campus de Paris, ensuite ça sera en Normandie, et puis vous voulez en mettre dans chaque région. Veolia met plusieurs millions d'euros, n'est-ce pas, dans ce projet. On a eu des mails pour nous dire, mais demandez à Estelle Brachianoff pourquoi elle fait ça, parce que nous, enseignants, nous proposons déjà des formations. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est critique sur le système actuel ?
Alors déjà, ce n'est pas à la place de l'éducation nationale au sens large, hein, c'est avec, puisque je vous l'ai cité. Donc, on rassemble dans finalement ce qui est un catalyseur. On galvanise sur un territoire les forces vives sur la transformation écologique. Donc, on le fait avec des formations qui existent déjà sur les territoires. Mais il manque souvent le lien. Depuis le diagnostic, à Arras, il y a des gigafactories pas loin, et donc on va avoir beaucoup, beaucoup besoin d'électromécaniciens, de gens dans d'électriciens, des gens, et même évidemment des formations autres dans ce territoire. Et puis à un autre endroit de France, ce sera plutôt des sujets sur l'eau. Donc ça commence par un diagnostic, et ensuite le contenu pédagogique lui-même, il est fait par un conseil scientifique avec des universitaires.
Mais je vous entends, vous trouvez quand même, vous dites les formations elles existent,
ou le lien n'est pas toujours fait entre les besoins d'un territoire, les besoins des entreprises et les formations qui existent dans l'éducation nationale. D'ailleurs, on a des formations qui existent et qui parfois ne sont pas remplies parce qu'il faut faire le lien, donner envie aux jeunes d'aller suivre ces formations, comprendre non pas seulement quel est le débouché, mais faire le lien avec la transformation écologique sur votre territoire, là où vous habitez.
Donc c'est bien une école destinée à combler ces besoins pour les entreprises plus rapidement. Il y a quand même une dimension un peu critique dans la démarche aujourd'hui.
C'est plutôt pour accélérer la transformation écologique, je le dirais. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des solutions pour décarboner, pour dépolluer, pour régénérer les ressources, par exemple la ressource en eau, qui existent. La question qu'on se pose, c'est comment aller plus vite pour qu'elle soit déployée. Et pas non plus seulement déployée en théorie, mais déployée en pratique. À Arras, à Deauville, à Paris.
Mais ça veut dire
Paris.
Que vous-même, chez Veolia, vous avez du mal à trouver des bras
Alors, on a 2000 postes ouverts aujourd'hui, si vous allez sur nos différents sites internet en France, et puis vous pouvez multiplier par 5 ou 6 à l'échelle internationale, puisque nous avons 55 000 salariés en France et 213 000 dans le monde. Dans les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, vous avez cité le chiffre d'affaires, mais je pense que tous les gens qu'on emploie sur nos territoires font aussi partie des évidemment de la richesse que l'on crée.
Et donc, est-ce que vous avez du mal à recruter 2000 postes, voilà, ça fait beaucoup de monde.
2000 postes ouverts, c'est beaucoup. On a moins de mal à recruter que beaucoup d'entreprises parce que précisément notre projet a beaucoup de sens. Mais en France, on manque dans tous les secteurs de techniciens, de maintenance, d'électromécaniciens, de gens dans le digital. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on avait des gens qui relevaient des compteurs d'eau à la main, si je puis dire. Maintenant, tout ça est fait de plus en plus de façon automatique, donc on a besoin de toujours autant de personnes, mais il va falloir qu'ils gèrent de la donnée que les compteurs nous ramènent finalement. Donc on a besoin de gens pour analyser des informations et permettre de faire des économies d'eau. Donc vous voyez qu'il y a une transformation du type d'emploi dont nous avons besoin dans l'entreprise.
Estelle Brachianoff, Michelin a annoncé, on en a beaucoup parlé, qu'il mettait en place un salaire décent pour ses salariés qui tient compte à la fois de la situation géographique et qui permet de faire vivre une famille de 4 personnes. On entend dire que Veolia travaille aussi là-dessus. Est-ce que vous allez mettre en place un salaire décent pour ces 218 000 salariés dans le monde ?
Alors déjà, pour commencer, c'est une excellente initiative et bravo à Michelin pour ce qu'ils ont fait. Chez Veolia, j'ai cité les chiffres, on emploie beaucoup de monde et notamment beaucoup de cols bleus. On a 80% de non-cadres dans nos effectifs. Donc vous imaginez bien que le travail social pour accompagner tout le monde, il est pas d'hier, il est même pas d'avant-hier, il est finalement dans notre ADN chez Veolia. Et moi, je ne saurais pas être la patronne de Veolia sans me préoccuper de ces 213 000 salariés. D'une certaine façon, je suis à leur service aussi. C'est une raison pour laquelle j'ai lancé, c'est une de mes premières décisions de directrice générale, un plan qui s'appelle Veolia Cares. Donc chez Veolia, c'est Veolia Cares, pardon, c'est en anglais. C'est un dispositif de standards minimums sociaux mondiaux. Ça veut dire que vous travaillez chez Veolia en France, aux États-Unis ou en Colombie, vous avez au moins droit, quelle que soit la législation, même si elle ne le prévoit pas, à des congés maternité, congés paternité, une assurance santé, la prévoyance. Cela paraît évident quand on est français, et évidemment, ça peut être plus en fonction des législations, mais ça paraît évident quand on est français, ce que je viens de vous dire, mais je reviens des États-Unis, et un des endroits où ça a le plus fait la différence pour nos salariés, c'est aux États-Unis. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas de congés maternité ni d'assurance santé automatique prévue par la loi. Mais quand vous travaillez chez Veolia, vous y avez droit.
Mais ma question est-ce que vous allez aller plus loin? Est-ce que vous travaillez sur le salaire décent?
Est-ce que ce que j'entends dire est exact? Ce que vous avez tout à fait raison, qu'on est en permanence en train de faire évoluer notre dispositif. Ouais. Donc le Veolia Cares, je l'ai lancé il y a un peu moins d'un an, et il va évoluer dans la durée, bien sûr.
Bon, pas de réponse précise. Estelle Brassianoff, cette semaine vous publiez un baromètre mondial sur la transformation écologique. C'est le second que vous produisez. La question en gros que vous posez à l'échelle de la planète, c'est à quoi êtes-vous prêt pour la transformation écologique? On vous répond qu'on est prêt à quoi? Parce qu'en ce moment, l'impression qu'on a, c'est que c'est plutôt le backlash écologique, que les gens demandent des pauses dans les normes et qu'il y a un recul.
Justement, on a essayé de faire autre chose que l'impression qu'on a, qu'on partage, Alexandra, et donc faire un baromètre auprès de 30 000 personnes qui représentent 60% de la population mondiale. Et la très bonne nouvelle, c'est que dans le monde, et les Français notamment, disent non à la pause écologique. C'est très clair et c'est un des enseignements de ce baromètre. Ce baromètre nous a permis également de comprendre quelles étaient les préoccupations des Français, mais aussi quels étaient les leviers d'action. Et parmi ceux-là, ou leviers de transformation au quotidien. Et parmi ceux-là, par exemple, émerge de façon évidente l'enjeu de la santé. Que toute la transformation écologique permette de préserver la santé de soi-même, de ses proches, est un sujet majeur pour les Français. Mmh. On pourra reparler sans doute dans un instant, par exemple, de ce que l'on fait sur les PFAS, qui sont des polluants émergents. Tout ceci participe du fait de non pas seulement être sur sauver la planète, si je puis me dire comme ça, mais est-ce que tout ceci peut avoir un impact positif pour préserver la santé?
Donc vous vous dites qu'ils ne demandent pas de pause. Pour leur santé, ils sont prêts
donc
à faire
pas,
plus.
Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un baromètre auprès de plus de 1000 Français et 30 000 personnes dans le monde, quand même. Et donc, finalement, si je le résume, entre ceux qui appelleraient à la pause et à l'autre côté, ceux qui demanderaient une écologie très radicale, on est en train de parler chez Veolia d'une troisième voie, qui serait une écologie qui transforme et protège, qui est très concrète et très près des territoires, du concret, de l'action, de la réutilisation des eaux usées, de l'énergie produite localement, du traitement des polluants, donc pas théorique, mais concrète et, comme ce que je viens d'expliquer sur Terra Academia, très près des territoires, donc qui n'est pas uniquement décidé, si je puis dire, à l'ONU ou dans des grandes conférences internationales, mais à Arras, à Deauville, à Paris.
Vous venez de mentionner les PFAS et vous revenez en effet des États-Unis où le sujet est abordé depuis longtemps. Je crois que 45% de l'eau du robinet aux États-Unis est contaminée par ces polluants éternels dont on a parlé aussi en France. C'est quoi la situation chez nous, Estelle Brachlianoff?
Alors vous avez raison, donc les PFAS, ce sont des polluants émergents qui ont d'abord été découverts aux États-Unis. Et c'est pour ça que quand on a, avec Veolia, une entreprise implantée mondialement, on a appris à les traiter d'abord aux États-Unis et maintenant on est prêt pour la France finalement et donc on a dans notre ADN chez Veolia depuis 170 ans que nous existons de trouver des solutions à base de technologie, de savoir-faire et d'international.
Est-ce que nous on est très contaminés?
Alors puisque c'est la question qu'on se posait, nous on n'attend pas pour agir et donc on a fait des mesures. On a regardé où, combien, quoi pour mesurer s'il y avait des PFAS dans l'eau en France. La très bonne nouvelle, et ça peut rassurer vos auditeurs, c'est qu'on a fait une campagne sur, on a déjà fait plus de 2/3 de nos contrats en France, et dans 99% des cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Et dans le 1% qui reste, encore une fois, on a inventé, anticipé, par exemple aux États-Unis, on apporte maintenant des solutions qui sont très différentes en fonction des territoires. Et d'ailleurs, on a déjà résorbé plus de la moitié des cas qui posaient problème, alors qu'on a mesuré ça qu'il y a que quelques semaines.
Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé mercredi vouloir simplifier la feuille de paie. Et notre auditrice Géraldine a une question simple pour vous. Qu'est-ce que ça va changer exactement?
Et oui Géraldine, l'air du temps est au néologisme dur à prononcer, désmicardisation mais aussi débureaucratisation des entreprises. Il faut se débarrasser des paperasseries inutiles et l'idée du ministre de l'économie est de passer de 55 lignes aujourd'hui sur la feuille de paie à une quinzaine maximum. Mais je vais vous le dire, c'est déjà simplifié depuis 2018. Les entreprises ont l'obligation de produire un bulletin clarifié. Une nouvelle ligne, le montant social net, est venu s'ajouter en 2023. Mais franchement, la feuille de paie est-elle aujourd'hui si compliquée à comprendre? Géraldine, j'ai regardé la mienne et Bercy exagère un peu. Il y a une trentaine de montants indiqués au grand maximum. Les intitulés sont clairs, bruts, nets, heures sup, santé, accident du travail, retraite, famille... contribution due par l'employeur, tout tient sur une feuille A4. On peut encore gagner en lisibilité, c'est sûr, mais jusqu'où sans perturber la compréhension? Par exemple, si on supprime tout le détail des prélèvements sociaux, ce qui est prévu, on ne sait plus où va l'argent des cotisations. Pas certain que les salariés s'y retrouvent, ni que les entreprises gagnent du temps. Ça fait belle lurette que les feuilles de paie ne sont plus remplies à la main. Leur gestion est souvent confiée à des prestataires extérieurs. Quant aux petites entreprises, les comptables en charge de l'édition des bulletins doivent de toute façon calculer la somme des cotisations et contributions, même s'il n'y a plus qu'une seule ligne à la fin.
Quand même, Sandrine, les entreprises, elles se plaignent souvent de crouler sous la paperasse, les normes. Dans ce projet de loi, est-ce qu'il y a des propositions qui vont leur faciliter la vie?
Supprimer des formulaires CERFA, favoriser les déclarations plutôt que les demandes d'autorisation, ce sera sans doute plus efficace que l'allègement de la feuille de paie. Mais il faut aussi s'interroger sur cette fameuse lourdeur administrative. C'est vrai, les normes produites par l'État ont doublé en 20 ans. Bercy rappelle par exemple que le nombre d'articles dans le Code de l'environnement a augmenté de 689%. Certes, le Code du travail s'est alourdi, mais les nouvelles contraintes écologiques, sociales ou sanitaires exigent de la régulation. En 2020, pendant le Covid, 14 lois, 267 articles, 375 décrets et 99 ordonnances ont permis de lutter contre la pandémie, mais au fond, était si inutile que ça. Le plus difficile est justement de distinguer les normes superflues, purement chronophages, de celles qui protègent véritablement les salariés ou l'environnement. On attend l'évaluation de la future loi pour le savoir. Quant au bilan de la feuille de paie ultra light de Bruno Le Maire, a priori, Géraldine, ce ne sera pas avant 2027.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Merci à vous Sandrine et merci à Céline Hilla, la réalisatrice, à Valentin Pérez, attaché de production, à la technique, à Adèle Caglar et au mixage, à Rémi Sistiaga.